VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Le président François Hollande sera reçu demain à la Maison-Blanche par son homologue américain Barack Obama dans le cadre de la tournée du leader français dans plusieurs pays pour encourager la campagne contre le groupe État islamique et promouvoir un règlement politique de la guerre civile en Syrie. Selon Washington, les deux leaders discuteront du renforcement de la coopération dans le cadre de la coalition menée par les États-Unis qui bombarde les positions des militants de l'État islamique en Irak et en Syrie depuis plus d'un an. L'aviation française participe à cette opération. Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste en Belgique, troisième jour d'une vaste opération contre les djihadistes. Le pays reste sous la menace d'une attaque des terroristes et en état d'urgence. Lionel Gaïma.
Selon le parquet fédéral, 21 personnes ont été interpellées depuis hier soir. Ce matin, 5 suspects ont été arrêtés à Bruxelles et à Liège. Et dimanche soir, 16 islamistes présumés ont été appréhendés au cours d'une vaste opération dans la capitale et à Charleroi. Le français Salah Abdeslam, traqué depuis le 13 novembre par les polices belges et françaises, a encore échappé à l'opération. Il pourrait essayer de se rendre en Allemagne, selon la police. La menace d'attentat étant toujours sérieuse et imminente, le gouvernement belge a décidé de maintenir le niveau d'alerte à son maximum depuis 3 jours. Les écoles, les universités sont fermées et le métro est à l'arrêt. Les autorités belges redoutent des attaques similaires à celles de Paris qui ont fait 130 morts et 350 blessés. On prend les mesures qui sont nécessaires autant que possible pour garantir la sécurité des gens. Mais la vie économique et sociale doit continuer à Bruxelles, a déclaré ce lundi sur RTBF le ministre de l'Intérieur Jean Jambon, soulignant que les entreprises et le secteur public devaient fonctionner.
Cap sur l'Afrique maintenant. Au Burundi, le ministère de l'Intérieur a interdit provisoirement aujourd'hui les activités des principales organisations de la société civile, animatrices du mouvement anti-troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Ces groupes étaient déjà poursuivis pour insurrection et leurs principaux dirigeants sont en exil. Cette décision fait suite à de nouvelles violences dans le pays ce week-end, au moins 5 personnes tuées. La violence affecte non seulement les quartiers contestataires de Bujumbura, mais aussi des régions reculées comme Makamba dans le sud, près de la frontière avec la Tanzanie. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, qui commence par la situation dans la capitale.
Les témoignages de la population du quartier Ngagara sont formels. Vers 16h samedi après-midi, dans le bar chez Masuguru, près du lycée Saint-Albert, un groupe de policiers tire. Plus d'une vingtaine de jeunes qui étaient en réunion de mariage sont arrêtés. Mais entre-temps, 3 personnes, dont un employé d'une banque, sont tuées. Le porte-parole adjoint indique que des criminels armés étaient en réunion dans ce cabaret. Des armes, dont des Kalachnikovs, ont été saisies selon la police. Presque toute la nuit de samedi vers dimanche, les tirs à l'arme automatique et des grenades ont été entendus dans différents quartiers contestataires au sud et au nord de Bujumbura. Une personne a été tuée à Ruziba au sud, tandis qu'une autre a été retrouvée morte au nord du pays, dans la province de Kirundo, près de la frontière avec le Rwanda. Selon une ONG internationale réfugiée, la violence est aussi remarquée dans la province de Makamba au sud du Burundi. Des familles craignent pour leur vie et dorment dans la forêt ou à la Belle Étoile, tout comme la plupart des citadins vivant dans les quartiers contestataires de la capitale. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le pape François s'apprête à visiter 3 pays africains du 25 au 30 novembre, à savoir l'Ouganda, le Kenya et la Centrafrique. Le souverain pontife trouvera pour son premier voyage sur le continent africain une église catholique en pleine croissance, véritable pouvoir politique et social, mais qui affronte des défis redoutables, de l'islamisme radical à la prolifération des sectes évangélistes. Morgane Guiriec.
Et c'est la première fois que Jorge Bergoglio se rend en Afrique, continent où la croissance des catholiques est la plus rapide. Au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique, François trouvera des communautés chrétiennes sur la défensive face au djihadisme. L'Église catholique africaine campe sur des positions très intransigeantes en matière de mœurs, dénonçant le conditionnement par les pays occidentaux de leur aide à l'adoption de législations favorables à la contraception, l'avortement et l'homosexualité. Le pape devait lancer des appels forts à maintenir la coexistence pacifique et l'esprit de tolérance traditionnelle entre chrétiens et musulmans. François devrait aussi demander aux catholiques africains de surmonter les haines ethniques alors que celles-ci renaissent au Burundi de manière menaçante. L'échec à empêcher le génocide du Rwanda en 1994 reste le grand échec du catholicisme africain.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, le Mali observe 3 jours de deuil national après l'attaque qui a fait au moins 19 morts dans l'hôtel Radisson Blue de Bamako. Plus de précisions avec Idriss Fall.
1, 2, 3, 4, 5. Les drapeaux sont en berne dans la capitale malienne où la sécurité a été renforcée. Par solidarité, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée observent 3 jours de deuil. Le président sénégalais Macky Sall est venu hier à Bamako présenter ses condoléances, assurant que le Mali ne sera jamais seul dans ce combat. Le président béninois Thomas Yayi Boni et le premier ministre de la transition burkinabé Isaac Zida se sont rendus aujourd'hui pour exprimer leur soutien aux Maliens. Pour le procureur Boubacar Sidiki Samake, chargé de l'enquête, les auteurs du forfait ont bénéficié de complicité. Les limiers de la police ont trouvé une valise contenant des grenades dans le hall de l'hôtel. L'attentat a d'abord été revendiqué par Al-Mourabitoun, un groupe extrémiste dirigé par l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, alias Le Borgne. D'ailleurs, d'après Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, Belmokhtar, très recherché, est plusieurs fois donné pour mort et toujours vivant. Dans un autre communiqué adressé à l'AFP, le Front de libération du Massina, un groupe djihadiste du centre du Mali, a aussi revendiqué cette attaque.
Le président Alpha Condé de Guinée condamne fermement l'attentat de Bamako et appelle à la solidarité avec le Mali. Il demande aussi aux Guinéens d'être vigilants. Plus de précisions avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Les 3 jours de deuil national décrétés par les autorités maliennes seront aussi observés en Guinée en guise de solidarité, a annoncé samedi le président guinéen qui poursuit en s'attaquant au terrorisme. Il faut que tous les Guinéens prennent leurs responsabilités. Il faut que tout le monde fasse le policier, conseille-t-il. Le président Condé s'est même voulu menaçant. Je fermerai toutes les écoles franco-arabes où les élèves portent le voile intégral, a-t-il dit. Le président guinéen n'est pas sa première sortie contre le port du voile intégral. Il y a quelques mois, Alpha Condé avait émis l'idée d'un débat national sur le sujet. Les autorités guinéennes suivent avec attention les événements de Bamako, Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
En Tunisie, un groupe djihadiste a revendiqué au nom de l'État islamique la décapitation de jeunes bergers tunisiens, l'accusant d'avoir informé l'armée sur ses mouvements dans la région de Sidi Bouzid. La décapitation de cet adolescent le 13 novembre a suscité l'émoi et la colère en Tunisie. Ces assassins avaient ordonné à un proche de la victime, Chokri, 14 ans, témoin de la scène, de ramener la tête du défunt enveloppée dans du plastique à sa famille. Et puis, élection en Égypte aujourd'hui, deuxième étape des législatives devant déboucher sur la formation d'une Assemblée nationale pour la première fois depuis 3 ans. Les partisans du président Abdel Fattah al-Sissi avaient raflé la mise au premier tour et aucun candidat de l'opposition n'était représenté dans le scrutin de ce 22 novembre. Côté sécurité, la police a déployé des dizaines de milliers d'agents au Caire et dans 12 autres provinces pour garantir le bon déroulement du processus. Et puis, le secrétaire d'État américain John Kerry est à Abu Dhabi, première étape de sa tournée au Moyen-Orient. Un voyage qui mettra l'accent sur la guerre civile syrienne et les efforts multinationaux pour une transition politique à Damas. Il sera aussi question de la violence qui continue entre Israël et les Palestiniens. Avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas, John Kerry devrait envisager des mesures qui pourraient mettre frein à une spirale de la violence dans la région et ouvrir la voie à un calme permanent entre les deux parties. Et puis les citoyens israéliens qui veulent rejoindre le groupe État islamique en Syrie pourraient perdre leur nationalité. C'est ce qu'a affirmé hier le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et il a dit vouloir déchoir de leur nationalité de telles personnes quelques jours après le démantèlement de réseaux de djihadistes arabes israéliens. Les Arabes israéliens représentent plus de 17% de la population de l'État hébreu. Et pour terminer, une roquette palestinienne a été tirée lundi matin depuis la bande de Gaza sur le sud d'Israël et est tombée sur un terrain vague. Aucune blessure n'a été enregistrée selon un communiqué de l'armée israélienne. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.